RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, la France, leader mondial du tourisme avec 85 millions de visiteurs par an, traverse une crise sans précédent. Et surtout, Paris qui tire le secteur. Les attentats du 13 novembre dans la capitale, ceux du 14 juillet aussi à Nice, ont choqué le monde entier et ont fait fuir les touristes. Agences de voyage, hôtels, restaurants, musées, tous les professionnels du secteur sont touchés. Leur baisse de revenus évolue entre moins 20 et moins 60%, un recul dont il sera difficile de se relever. Paris en mal de touristes étrangers, un grand reportage signé Ariane Gaffuri.
La saison estivale a été catastrophique. Je suis dans la profession depuis 1977. C'est la pire saison que nous ayons vécue.
Evelyne Maes gère un hôtel 3 étoiles rue de Vaugirard à Paris. Elle est aussi présidente de l'UMI Île-de-France, le principal syndicat hôtelier.
La situation est très mauvaise pour des raisons diverses. Les attentats de novembre 2015, les attentats de Bruxelles, les grèves, les échauffourées dans la rue avec les manifestations, les poubelles pas ramassées dans Paris, le racket, le pickpocket. Tous ces événements déclenchent une atmosphère anxiogène pour le touriste qui est loin de Paris. Donc ceux qui ont disparu le plus rapidement sont les touristes asiatiques qui ont le plus facilement peur.
L'hôtellerie est l'indicateur incontournable de la bonne ou mauvaise santé du tourisme. Si les petites structures s'en sortent plutôt bien, les palaces sont les plus touchés par la crise. Près d'un tiers de fréquentation en moins. Philippe Goguet, associé chez Inextenso, un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme.
À chaque fois, l'onde de choc, en quelque sorte, la durée d'impact de ce terrorisme dure environ 3 mois. C'est-à-dire que l'acte de terrorisme du Bataclan aurait dû durer jusqu'au mois de mars maximum. Alors c'est vrai qu'au mois de mars, on a eu cet acte de Bruxelles qui a eu des répercussions sur Paris parce que on est voisin immédiat avec ce pays. C'est bien une crise de terrorisme, mais également une hôtellerie qui est durablement et profondément concurrencée par des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle l'économie collaborative, et donc Airbnb qui, de façon, on va dire, déloyale, concurrence lourdement ce secteur hôtelier.
Avec la baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs cherchent en effet les moyens de voyager moins cher. Résultat, le tourisme en France a chuté de plus de 6% cette année. Un coup dur pour la filière, qui représente 8% de la richesse nationale et 2 millions d'emplois directs. En France, Paris est le pivot central de toute l'industrie du tourisme. Stéphane Botz, associé chez KPMG, un cabinet de conseil de la filière.
On assiste à un phénomène qui est beaucoup plus marqué sur Paris. La province, c'est un peu différent parce qu'il y a un marché domestique qui est assez fort. Quand on prend la France, on sait qu'il y a la Côte d'Azur qui a subi un peu plus de repli à cause des attentats du 14 juillet. Et on constate que tout ce qui est la côte atlantique, elle a assez bien résisté depuis le début de l'année à la fréquentation du tourisme de loisirs et de tourisme d'affaires. Mais soyons clairs, le tourisme en Île-de-France, parce qu'il n'y a pas que Paris, représente 45% du volume des recettes sur l'ensemble de la France. Il tire le marché et quand l'Île-de-France est en panne, ça a tout de suite un impact sur les résultats des recettes du tourisme français.
Les bureaux du tour opérateur Mickey près de l'Opéra, numéro 2 au Japon. En 50 ans d'existence, l'agence n'avait pas connu pareille crise. Yana Goudier.
Actuellement, on est en baisse d'environ 60%. L'année dernière, elle était déjà difficile après Charlie Hebdo. C'est devenu une catastrophe totale après le 13 novembre. Donc les groupes de fin d'année, ils ont été systématiquement annulés, une partie même repatriée directement.
Alors comment vous faites pour vous en sortir aujourd'hui?
Évidemment, on rame, hein. C'est vraiment pas la joie. Hein. On a mis en place une activité partielle hein, pour 6 mois, donc on a tous baissé nos salaires, mais ça fait mal au portefeuille.
Ce guide japonais commente une peinture d'Alexandre Cabanel, La naissance de Vénus, exposée au musée d'Orsay à Paris. Si un grand nombre de groupes nippons ont déserté la capitale, certains japonais n'ont pas hésité à venir seuls. C'est le cas de Hiroshi et Maiguni.
Je suis venu du Japon pour le tourisme et aussi pour voir mes cousins qui habitent à Tours. J'ai eu peur de venir. En fait, je devais venir en décembre l'année dernière, mais il y a eu les attentats et j'ai annulé mon voyage. Mais je suis revenu. Je compte visiter l'orangerie et le musée d'Orsay.
J'ai passé une semaine dans la Loire à Sancerre pour mon travail. Je suis journaliste spécialiste du vin. Et là, je prends 3 jours de vacances à Paris. Les Japonais aiment aussi la gastronomie française, mais là, ils ont peur de venir en France. C'est à cause des attentats et de la barrière de la langue. Ils se disent, les Français ne parlent pas bien anglais. Nous, on se débrouille en anglais, mais pas du tout en français. Et s'il arrive un malheur, je ne pourrai pas comprendre ce qui se passe. En plus, l'ambassade du Japon nous a dit...
Fais attention si vous allez à France.
Mais vous parlez français aussi, c'est pour ça que vous n'avez pas peur.
Depuis le 13 novembre 2015, la France est en état d'urgence et de nombreux pays déconseillent la destination France à leurs citoyens. La répétition des actes de violence dans ce pays à fort pouvoir médiatique est en effet dissuasive. Philippe Goguier.
Ce qui affecte, à mon avis, profondément l'hôtellerie, c'est cet état d'urgence qui a été adopté en fait par le gouvernement. État d'urgence, ça veut dire état de guerre. Les assureurs ne vous prennent plus en charge sur tout ce qui est voyage organisé.
L'état d'urgence devrait être levé fin janvier 2017. L'activité touristique pourra alors reprendre, si tout va bien. Tout près de la place Concorde, en face du jardin des Tuileries, se trouve la brasserie Flotte, rue Cambon. Un lieu réputé pour sa cuisine traditionnelle et raffinée. David Friedlander, son directeur commercial, nous reçoit.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?
J'aurais souhaité un café, un croissant, s'il vous plaît, monsieur.
D'accord. Alors, on est dans une brasserie typiquement parisienne, avec des vitraux, une belle décoration chaleureuse.
On sait que c'est la crise en ce moment. Est-ce que vous avez constaté cette crise ?
Alors oui, évidemment, sur le mois d'août, Paris, principalement, a compté plus d'un million de visiteurs en moins, ce qui est à l'échelle de la capitale énorme, avec en moyenne une perte de chiffre d'affaires de moins 20%. Cette tempête, on la traverse. À défaut d'avoir un volume de clients aussi important qu'avant, on s'est recentré sur notre cœur de métier, c'est-à-dire davantage peut-être fidéliser nos clients. On a une équipe qui est très soudée, qui travaille davantage. Nous avons également des actions de communication, peut-être un petit peu plus poussées qu'avant. Et par ailleurs, nous continuons à investir dans la décoration, dans le renouvellement des cartes, avec le retour du foie gras et des fruits de mer, avec de belles variétés d'huîtres. Et nous avons également baissé nos tarifs. Pour d'autres produits, nous n'avons pas baissé les prix. En revanche, nous n'avons pas répercuté pour nos clients les hausses de certains fournisseurs.
Autour d'un café, après l'interview, nous évoquons les attentats du 13 novembre. Un souvenir douloureux.
Excusez-moi, je suis un peu ému parce que dans ces attentats, nous avons perdu 3 confrères, propriétaires d'une très belle pizzeria connue sur Neuilly-sur-Seine. Ces attentats nous ont également touchés dans nos cœurs.
Si les restaurateurs et les hôteliers parlent volontiers des conséquences de la crise sur leurs activités, les responsables des musées et des sites touristiques sont beaucoup moins loquaces. Pas d'interview possible à Notre-Dame, au musée du Louvre ou encore à la Tour Eiffel. Mais il suffit de se rendre sur place pour constater que les files d'attente sont nettement moins longues que d'habitude.
Laura.
Laura, alors vous êtes guide devant la Tour Eiffel ?
Oui. Elle était construite pour l'exposition universelle 100 ans de Révolution française, 1889. Et à l'époque, c'était la plus grande tour du monde.
Donc construite par Gustave Eiffel.
Voilà. Elle était ingénieur spécialisé du métal. Il a construit beaucoup de ponts en France, mais il était connu surtout pour sa tour Eiffel. Parmi les monuments payants, c'est le plus visité. Ouais.
Et vous avez toujours autant de clients que d'habitude ?
Non, beaucoup moins ouais. Cette année, parce que je travaille avec les russophones et il y a la crise en Russie.
Et donc c'est, pour vous, c'est difficile ?
C'est quand même un petit peu, oui.
Quoi les deux derniers monuments
de les deux derniers monuments qu'on voit ? Parce que là, vous nous dites que si on fait juste un aller, on s'arrête à Notre-Dame.
On s'arrête là, hein. Ouais, on se promène là.
On va s'arrêter à Notre-Dame.
Sur les quais de la Seine, au pied de la Tour Eiffel, des visiteurs embarquent pour une promenade jusqu'à Notre-Dame. Malgré le beau temps, le bateau est loin d'être rempli. Frédéric Avierinos, directeur des Vedettes de Paris.
Les compagnies de bateaux ont eu un problème que n'ont pas eu les autres, c'est qu'on a eu une crue tout à fait inattendue et énorme, qui fait que notre exploitation a été quasiment interrompue pendant une grande partie du mois de juin, en haute saison. L'euro ne nous a pas du tout aidé non plus. La fan zone était derrière la tour Eiffel, elle a détourné les quelques touristes qui se promenaient encore dans le secteur. Mais il y a des choses qui ne sont pas simplement liées à la période difficile que nous traversons. Je pense à la propreté de Paris, par exemple. Je pense à l'accueil dans les aéroports, les taxis, parler de langues étrangères, des sujets qu'on dénonce depuis très longtemps. Paris en particulier, considéré que comme on était la première destination touristique mondiale, les touristes venaient, quoi qu'il arrive, ça n'est pas vrai. Les autres destinations comparables, pendant ce temps-là, ont pris des mesures. L'Espagne, l'Italie sont des pays qui, ces dernières années, ont su reprendre un peu la main sur le développement de leur activité touristique. Maintenant, si on prend spécifiquement les intérêts de tourisme fluvial, Paris est quand même le premier port de tourisme fluvial mondial, avec 8 millions de personnes qui circulent sur ce que nous faisons chaque année. C'est vrai que les plus beaux monuments de Paris sont sur le fleuve. C'est merveilleux, cette croisière que nous faisons. C'est magnifique. Mais il faut aussi que l'activité fluviale elle-même se mette en valeur.
Et voici le pont le plus romantique de Paris, le pont Marie ou pont des amoureux. La légende veut qu'en abordant ce pont, on fasse
moins de touristes, cela veut dire aussi moins de travail pour les taxis, les bus touristiques et les autocars.
Tu vas tourner, tu vas voir un... C'est un peu comme cette rue-là, quand j'ai pris vendredi, la rue de Rochechouart. Ça passe, mais il n'y a pas 50 km entre la voiture et le car, quoi.
Ce patron d'une entreprise d'une quarantaine de salariés, spécialisé dans le transport de groupes de touristes, a accepté d'évoquer sa situation, mais il préfère rester anonyme.
La situation est très difficile. On a subi un déficit d'activité de quasiment 60% en très peu de temps. Il a fallu prendre des mesures drastiques, comme figer les loyers des véhicules, avoir recours à l'activité partielle pour les salariés. On a dû s'ouvrir à d'autres marchés. Donc on a profité de la loi Macron pour créer de nouvelles lignes régulières sur toute la France. Donc on va desservir des destinations qui sont moins bien desservies par le train ou tout simplement pour proposer aux clients des tarifs qui sont beaucoup plus avantageux que le train ou l'avion. Mais le tourisme reste globalement entre 70 et 80% de notre activité. Espérons qu'on va pouvoir conserver l'entreprise, les emplois et tout ce qui en découle.
Et pour cet autocariste, la politique de la ville en faveur d'un Paris piétonnier et sans véhicule n'arrange pas les choses.
On a pas mal de difficultés pour desservir des lieux touristiques parce qu'ils sont interdits à la circulation ou à l'arrêt pour les autocars. Ensuite, les autocaristes français sont désavantagés par rapport à des autocaristes étrangers. Un exemple, le boulevard des Capucines, qui est un endroit hautement touristique sur Paris parce que le grand magasin est à proximité de l'Opéra, qui est strictement interdit au stationnement des autocars et où toute la journée, tous les jours, on voit stationner des autocars étrangers.
Hola, buenos días.
À l'Office du tourisme de Paris, pas loin de l'Opéra, quelques voyageurs font la queue pour organiser leur séjour. L'accueil est chaleureux. L'objectif du directeur est d'assister le voyageur, de le rassurer aussi tout en mettant Paris en valeur. Nicolas Lefebvre.
On a l'impression qu'il n'y a plus de touristes à Paris. En fait, bon, il y a un recul de 6 à 10%, ce qui veut dire qu'en fait, il y a quand même 90% et plus des touristes qui viennent à Paris. Un des leviers qu'on met en avant, c'est le fait qu'il faut montrer ce qu'est Paris en réalité. Quand on a des chocs comme ceux qu'on a vécu, forcément, on envoie une vision très négative de la ville. Et ce qu'on montre, notamment donc, alors, en s'appuyant sur des intermédiaires importants pour nous qui sont les médias, hein, puisque eux-mêmes après parlent au grand public dans leur pays, en montrant aux médias qu'en réalité, depuis le mois de décembre 2015, donc depuis quelques jours après les attentats du 13 novembre, les activités touristiques à Paris sont exactement celles qu'on aurait connues sans attentat du 13 novembre.
Melissa, I'm from Delaware.
Mélissa, je viens de l'État du Delaware, près de Philadelphie, aux États-Unis. Nous nous sommes dit, un attentat, ça peut arriver n'importe où. Nous sommes ici à Paris et des attaques ont eu lieu aux États-Unis. Donc vous voyez, il ne faut pas vivre dans la peur, sinon vous ne sortez plus de chez vous. Et j'ai tellement de bons souvenirs de Paris depuis ma dernière visite. J'aime tout ici, les gens, la gastronomie, l'histoire, c'est juste merveilleux.
Les cloches de la cathédrale Notre-Dame, chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Malgré la crise, la France ambitionne toujours d'attirer en France 100 millions de visiteurs d'ici 5 ans. Philippe Goguier, associé chez Inextenso.
Le tourisme, c'est une personne qui passe plus d'une nuit en dehors de son domicile. Donc le tourisme en France, c'est 85 millions de touristes par an. Alors c'est un chiffre qui est facile à retenir parce que c'est le même chiffre depuis un certain nombre d'années, malheureusement. Et l'objectif de 100 millions qui a été dicté par Laurent Fabius est pour nous une source de mobilisation extrêmement vertueuse. Je pense que c'est réalisable, mais même si ce n'était pas ou difficilement réalisable, il faut se le fixer comme objectif pour progresser et arrêter de se gargariser de 85 millions de touristes, dont un certain nombre ne font que transiter pour aller des pays du Nord vers les pays du Sud pendant leurs vacances, ou le contraire d'ailleurs. Et donc 85 millions, aujourd'hui, c'est 7,5% du PIB, c'est 2,2 millions d'emplois directs, c'est 80 000 jeunes qui sont en contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance. Et donc c'est un pan de l'économie parisienne, de l'économie française absolument incontournable.
Paris en mal de touristes étrangers, un reportage d'Ariane Gaffuri, réalisation Souhel Kedir.
Bonjour Ariane Gaffuri.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
On l'entend dans votre reportage, le tourisme traverse une grave crise. Est-ce que les prévisions sont un petit peu plus optimistes ?
Non, hélas, elles ne le seront pas tant que la France est en état d'urgence. Globalement, le tourisme est en repli de 8 à 10% à cause des attentats et aussi à cause de la crise économique qui frappe le porte-monnaie des touristes et réduit leurs dépenses. Les arrivées de touristes étrangers en 2016 devraient être inférieure de 4 à 5 % à celle de 2015. Si ces projections sont confirmées à la fin de l'année, ce serait la plus forte baisse qu'ait connue le tourisme depuis 40 ans, avec des pertes de 25 000 à 30 000 emplois directs et autant d'emplois indirects, surtout dans la restauration. Les grands magasins, eux aussi, sont fragilisés, mais comme les principaux musées et les sites touristiques, ils ne communiquent pas sur leur situation.
Alors, est-ce qu'on sait où sont allés les touristes étrangers qui d'habitude viennent en France ?
On sait que la destination Asie a très bien marché cette année, ainsi que d'autres pays européens, le Portugal, l'Espagne et l'Italie principalement. Le Portugal, par exemple, a connu un bond de 30% de fréquentation cet été, surtout Lisbonne et la région de l'Algarve sur la côte sud du pays.
Et est-ce que malgré tout, les entrepreneurs continuent à investir dans le tourisme ?
Oui, étrangement, le volume des investissements hôteliers en Europe a été exceptionnellement fort, selon le cabinet KPMG, avec des transactions de plus de 22 milliards d'euros. Le marché français a attiré 2,3 milliards d'euros d'investissements. En légère baisse, le résultat de méga-fusions. Par exemple, le groupe chinois Yingyang a racheté le groupe français Louvre Hôtel pour plus d'un milliard d'euros. Sur la Côte d'Azur, le groupe français Maranatha a racheté 6 hôtels de luxe, les Hôtels du Roi, soit près de 500 chambres valorisées à quelque 350 millions d'euros. Le secteur hôtelier est toujours recherché par les investisseurs parce que d'une part c'est un patrimoine et parce que le secteur est résilient. Tout le monde le dit, cela va mal, mais tôt ou tard, les touristes reviendront.
Et vous n'avez pas évoqué le tourisme d'affaires. Est-ce qu'il traverse lui aussi une passe difficile ?
Le tourisme d'affaires se porte mieux que le tourisme de loisirs, mais il subit encore le contre-coup de la crise économique de 2008. À cause de cette crise, les entreprises ont ralenti leurs dépenses d'affaires en France. Il faut savoir que Paris est un des leaders mondiaux du tourisme d'affaires avec 84 parcs d'exposition et 120 centres de congrès. Le salon le plus connu est le mondial de l'automobile. Un voyageur business rapporte gros. Il dépense 2 à 4 fois plus qu'un touriste de loisirs. Et selon Atout France, l'agence de développement et touristique, un congrès de 5000 personnes, c'est plusieurs millions d'euros de retombées en quelques jours pour les hôtels et les restaurants.
Paris en mal de touristes étrangers. Votre grand reportage, Ariane Gaffuri, à retrouver comme tous les jours sur RFI.fr. Ici l'Europe.